France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle George Benjamin. Je suis né à Londres le 31 janvier 60. Et je suis compositeur, chef d'orchestre, peut-être pianiste et professeur de composition.
Hier, George Benjamin racontait ce grand jour d'avril 1976, jour de sa rencontre décisive avec Olivier Messiaen. Aujourd'hui, retour sur ses années d'études entre Londres et Paris.
Alors, la première année, je ne pouvais pas arrêter mes études à l'école, surtout les études de la chimie et de mathématiques. Alors, je suis venu à Paris une fois par mois pour 2 jours. Pour assister à 2 classes de Messiaen et 1 classe de sa femme, Yvon Laurier, au piano. Puis après cette année, j'ai resté 1 an au conservatoire, j'ai fait tous les examens d'entrée, et j'avais fait l'analyse chez Betsy Jolas, beaucoup d'autres classes, mais surtout toujours la classe de Messiaen, 3 fois par semaine, des classes de 5 heures, extraordinaire. On voyait Messiaen 20 heures par semaine. Et puis le moment que Messiaen a quitté le conservatoire, j'étais à sa dernière classe. J'ai sorti du conservatoire, à côté de lui, j'ai quitté Paris pour revenir à l'Angleterre.
Paris, c'était pour Messiaen.
Exact. Malgré qu'il y a beaucoup de qualités à Paris, et vous ne pouvez pas imaginer quand même que c'était éblouissant pour un enfant de 16-17 ans d'assister à ce grand moment dans la vie musicale à Paris. Parce que Boulez, il est rentré, IRCAM et l'ensemble intercontemporain étaient en train de commencer. Il y avait Dutilleux, il y avait Xenakis, j'avais vu Stockhausen, j'avais rencontré Stockhausen avec Messiaen, et il y a le début de l'école d'itinéraire, la musique spectrale. C'était vraiment la ville de la musique moderne du monde.
Est-ce que, George Benjamin, quand vous avez cette première rencontre avec Messiaen et qu'il vous accueille, vous sentez que votre destin est peut-être dans ses mains? Cette peur, elle s'évanouit tout de suite,
oui.
Et elle laisse place à la confiance?
La confiance n'est, c'est un mot difficile à dire, car on a dans certains domaines de la confiance, même trop de confiance, mais dans d'autres dimensions, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Comment trouver sa voie personnelle? Comment trouver les moyens d'achever ce qu'on rêve? Comment trouver des bons rêves et des intéressants rêves pour l'avenir? Comment être joué? Comment être édité? Comment être enregistré? Et comment vivre? Il y a beaucoup de questions. Les débuts de gens qui sont convaincus qu'ils veulent être compositeurs sont très, très difficiles pour tout le monde. Mais la plupart de ces doutes et ces difficultés sont disparus devant ce professeur si gentil, si doux, si enthousiasmé, si généreux et si ensoleillant. Il parlait de la musique avec un tel enthousiasme, avec un amour sans fin. Vous savez que j'étais son Benjamin, car je suis son élève le plus jeune de toujours, et presque son dernier élève aussi. Et il n'a pas eu beaucoup d'élèves de l'Angleterre non plus. Alors mon cadre était un peu inhabituel. Je me souviens de la première classe que j'ai fréquentée en septembre ou octobre 77. Sur le piano, il y avait la partition de l'après-midi d'un faune. Une œuvre que j'avais entendue dans le premier concert à laquelle je n'ai jamais assisté à l'âge de 8 ans, au Royal Festival Hall à Londres. Une œuvre qui m'avait marqué tout de suite. Et une unique chef-d'œuvre dans l'histoire de la musique. Et une œuvre que Messiaen adorait avec un grand, grand amour. Alors il avait analysé pendant 4 heures, 5 heures. C'était tout à fait fascinant.
Lorsque vous parlez de cette étude de l'après-midi d'un faune, les leçons d'Olivier Messiaen, c'était des accords, beaucoup d'accords, écrire des accords.
L'harmonie, il parlait de l'harmonie. Et moi, j'étais obsédé par l'harmonie musicale dès que mes premières expériences musicales. Je sentais dans cette note de Beethoven une type de vérité, grande émotion dans cette seule, unique note. Et malgré que le langage musical toujours est en évolution, c'est une chose qui me reste centrale dans mon amour pour la musique, c'est la note. Et Messiaen était un des inventeurs harmoniques la plus originelle et plus extraordinaire de l'histoire de la musique des derniers trois siècles. Et alors, c'était fascinant pour moi d'entrer dans son domaine, son univers harmonique et de comprendre ses analyses harmoniques de sa propre musique autant que d'autres musiques, surtout celle de Debussy qui était extraordinaire. Et je crois que cela nous a rapprochés parce qu'à cette époque, la musique sérielle était toujours très en vogue et pas beaucoup de gens parlaient de l'harmonie. Même c'était dans quelques endroits un mot assez défendu. Moi, je n'étais pas d'accord, mais je crois que certes, vous savez, j'étais beaucoup plus jeune que les autres élèves dans la classe, et je dois ajouter que j'étais gâté par Messiaen, et ça a dû faire du mal à mes collègues, et une chose pour laquelle maintenant je suis conscient, non? Mais ils n'étaient pas toujours très gentils avec moi à cause de cela, et ils se sont moqués que le fait que je n'avais pas peur non plus des plus terribles dissonances ou aux plus simples consonances. Il y avait un danger d'une excessive homogénéité d'écriture harmonique grâce au sérialisme à cette époque. Je suis beaucoup, beaucoup plus ouvert, plus fasciné par le sérialisme maintenant que j'étais il y a 30, 40 ans. À cette époque-là, j'étais assez fâché et très contre.
Quand vous habitez à Paris, vous êtes tout jeune, Georges Benjamin, 16, 17 ans. Vous habitez où? Vos parents viennent vous voir? Pas
Ils ne sont pas venus me voir très souvent. Mais je suis rentré à l'Angleterre, à chez moi, tous les 6 semaines, je crois, ou tous les 2 mois. Non, j'ai habité dans des appartements des vrais Parisiens. D'abord, au Rue de Grenelle, 7e arrondissement, chez une femme remarquable qui était une grande amie depuis de qu'elle est mon professeur à Londres. Là, j'ai resté 6 ou 7 semaines. Puis, une très gentille famille près de l'Étoile, où j'ai resté 3 mois. Finalement, chez une Anglaise très gentille à Rue Poncelet, près de l'avenue Wagram, pour 4 mois. Alors, pourquoi si court? Pourquoi pas tout un an? Parce que je devais travailler mon piano. Et je devais composer ma sonate pour piano, une œuvre très virtuose, très violente et très longue. Alors, je faisais tellement de bruit qu'ils ne pouvaient pas me supporter après une certaine quantité de semaines. Et malgré, je ne dis pas tellement vilain, pas si méchant comme être humain, le bruit était insupportable. Alors, j'ai dû quitter ces maisons, hélas. Mais j'ai une bonne vision de plusieurs quartiers de Paris à cause de cela.
Cette sonate pour piano, oui, c'est une sacrée histoire que vous avez exécutée vous-même aussi.
Oui, j'avais créée à la maison de la radio, voilà, Studio 105, je crois. Un ami de la classe de Messiaen, Thomas Schley, m'avait tourné les pages. J'étais un pianiste assez violent, je jouais fort, et je cassais toujours des cordes de piano à cette époque-là. À la création, je crois que j'avais fait 2. À la création à Londres, j'ai cassé un clé. Il y avait du sang aussi sur le piano. Je n'étais pas très doux avec le clavier. Je me souviens de cette nuit, de la création à Radio France, le printemps de 78, je crois. Messiaen, bien sûr, il est venu. Il était gentil comme toujours. Il y avait un public de 90 personnes. Mais c'était la première fois que j'avais joué une œuvre selon, dans un cadre professionnel de ma vie. C'était un très grand moment pour moi. L'œuvre elle-même, là, je tiens un peu de distance maintenant. Là, il y a beaucoup d'enthousiasme là-dedans. La créature pour le piano est si confiant, mais j'avais beaucoup à apprendre. Beaucoup.
Georges Benjamin, avec Yvonne Loriot.
Oui.
Comment se passait-il?
Bah, elle était formidable professeure de piano. Bach, on a fait ensemble Chopin, Bartok, Messiaen lui-même, Schumann, Ravel. Mais il y a quand même une chose, qu'à la fin de mon deuxième année au conservatoire, je voulais partir parce que je voulais être compositeur. Et pour cela, je n'aurais pas besoin de rester au conservatoire. Je crois qu'Yvonne Loriot était sûre que je suis parti. Elle voulait que je reste, mais je voulais pas être en effet pianiste. Maintenant, je suis chef d'orchestre, un quart, même 10% de mon temps. Mais piano, il faut le travailler tous les jours, les gammes, les arpèges, la figuration, les mains. Et je voyais que c'est presque impossible de faire ça au 20e et au 21e siècle et être compositeur en même temps. Moi, j'ai beaucoup aimé jouer le piano, mais je le joue très rarement maintenant. Et quand j'étais tout jeune, j'ai composé au piano. C'est pas comme ça maintenant. Je le fais dans ma tête. Et je me sers de piano de temps en temps. Je me suis éloigné quand même de l'instrument.
Vous avez évoqué des amitiés et des relations privilégiées avec les interprètes comme Tabea Zimmermann ou Pierre-Laurent Aymard. Pierre-Laurent Aymard, vous l'avez rencontré à cette période-là?
Je l'avais rencontré dans la classe d'Yvonne Loriot quand j'avais 16 ans, mes premières journées à Paris. Et ça fait, mon Dieu, 43 ans que nous sommes amis. Il était à ses débuts d'être le pianiste dans l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez, et il était très connu pour être un extraordinaire interprète de la musique actuelle à cette époque. Mais maintenant, il est devenu un des grands stars de tous les répertoires de piano du monde. En effet, j'ai deux très 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 grands amis musiciens dans ma vie, de ma génération. Un, c'est Pierre Laurent. Et l'autre, c'est mon ami compositeur et chef d'orchestre Oliver Knussen, qui est mort l'année dernière. Vous le connaissez pas tellement bien en France, hélas, mais un merveilleux compositeur, extraordinaire chef d'orchestre, et un ami comme c'est presque pas possible de décrire. D'abord, il était drôle comme personne, il était généreux, il était gentil, il était terrible aussi, une personnalité gigantesque. Presque aussi gigantesque que son corps, mais aussi il était un enfant à son intérieur aussi. Alors, on s'est rencontrés grâce à notre éditeur, car j'avais la énorme chance d'être édité, même à l'âge de 18 ans, 17 ans, par Faber Music, un éditeur ici à Londres, où tout mon catalogue sont édités par eux, et celle de Holly aussi. Et ils ont dit, il faut que ces deux se rencontrent. Alors le directeur de Faber, je crois qu'il a arrangé que j'aille chez Holly pour lui rencontrer. Et je suis allé à 8h le soir pour qu'on parle et dîne ensemble. Et sûrement, je suis quitté à 4h15 du matin. Et c'était le début d'une très, très profonde amitié.
Les grands entretiens de George Benjamin, France Musique.
Il y a d'autres amis, un métier très important, selon les musiciens aussi. Un autre très grand ami que j'avais rencontré à cette époque, c'est Tristan Murail, fameux compositeur, un des fondateurs de l'itinéraire, grand compositeur spectral. Plus tard, j'avais connu aussi Gérard Griset, quelqu'un que j'aime beaucoup. Beaucoup de mes amitiés musicales les plus profondes étaient en France. Je peux ajouter Pierre Boulez, un homme, je n'ai pas besoin de dire, un homme de génie. Henri Dutilleul aussi, je l'ai bien connu, je l'ai beaucoup aimé. Et aussi, j'ai tellement d'étudiants de moi-même que beaucoup de mes amitiés sont mes étudiants ou même les étudiants de mes étudiants. Une très drôle chose. Et finalement, je peux ajouter que j'ai dans ma vie aussi, contrairement à ma jeunesse, beaucoup d'amis qui ne sont pas musiciens du tout, qui viennent soit de l'art, des arts, ou de l'architecture, de la philosophie, autre chose.
Vous avez évoqué le nom de Tristan Murail et de Gérard Griset. Cette musique spectrale qui n'est pas votre esthétique, mais comment vous la recevez lorsque vous la rencontrez, lorsque vous la découvrez dans ces années parisiennes?
Alors, c'est Messiaen qui m'avait parlé de Tristan. Et qui m'avait parlé d'une œuvre qu'il a aimée beaucoup, qui s'appelle Gondwana. Alors j'avais écrit une lettre à Tristan, disant que Messiaen m'a parlé, est-ce que je peux l'entendre? Il m'avait, je crois, envoyé un enregistrement, j'ai tout de suite aimé. Je trouvais cette musique très très belle. C'était pas les directions que je voulais pour moi-même, mais je voyais une conception originelle et généreuse et colorée de la musique, et très intéressante selon timbre et harmonie. J'ai commencé pas très tard de diriger à Londres et j'avais dirigé beaucoup d'œuvres de Tristan et de Griset aussi. Alors, malgré que selon ma propre musique, je suis éloigné de cette esthétique, c'est pas mon genre, j'ai quand même été influencé à un certain moment.
Alors George Benjamin, on entendait ce passage très important, structurant, fondateur par Paris. Paris, vous nous l'avez dit, c'était Olivier Messiaen. Lorsqu'Olivier Messiaen prend sa retraite du conservatoire, vous ne voyez pas la nécessité de rester à Paris et vous rentrez en Angleterre, direction Cambridge. Cambridge, ce n'est pas loin de Londres où nous sommes. Et pourtant, ça semble si loin. C'est une sorte d'îlot, une sorte de ville toute tournée vers la philosophie, les arts, la pensée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette arrivée à Cambridge et du professeur que vous rencontrez, Alexandre Goehr, qui va être aussi très important?
La différence entre Paris 77-78 et Cambridge 78-79, c'est quand même très grande. C'est une petite ville dominée par son architecture Moyen-Âge, Renaissance, magnifique, très beau. C'est, comme vous l'avez dit, c'est une ville assez éloignée de Londres, de même à cette époque de la vie contemporaine. C'est pas très loin de Londres, mais ça a une ambiance tout à fait particulière qui aide la réflexion. C'est une ville, surtout la nuit, en hiver, c'est très très silencieux. C'est un endroit très poétique, mais il y avait beaucoup de la musique aussi. Mes premières expériences de diriger des grands orchestres étaient à Cambridge. J'avais fait beaucoup de la musique Et là, il y avait un professeur de composition et le professeur de toute l'équipe musicale, Alexander Goehr, qui était un homme et qui reste un homme formidable. La relation entre moi et lui était difficile au début. Il était le fils de Walter Goehr, un des élèves plus doués de Schoenberg pendant son époque à Berlin. Il est devenu un chef assez connu après la guerre à Londres. Il avait même dirigé la création anglaise de Drangalila de Messiaen. Son fils Alexander était aussi un étudiant de Messiaen aux années 50. Mais la relation entre lui et Messiaen n'était pas tellement bien. Et l'ambiance était beaucoup moins chaleureuse que celle de moi avec Messiaen, qui rend le cadre difficile quand j'arrive chez lui pour la première fois et je suis son élève à Cambridge. Moi, je ne voulais pas tellement apprendre lui. Lui, il était suspicieux de moi. Mais peu à peu, l'atmosphère a changé, a évolué. Et finalement, nous sommes devenus des très grands amis. Et il a une grande influence sur moi. Chez Messiaen, dans la classe de Messiaen, on jouait de la musique tout le temps. On entendait des disques, il jouait au piano. Il y avait le son, le son, le son. Chez Goehr, presque jamais. C'était la réflexion, c'était la philosophie musicale. Et ça m'avait beaucoup détourné, même ça m'a fait du mal au début. Mais il m'avait parlé de exactement les choses que Messiaen ne parlait jamais. Donc Messiaen ne parlait jamais. Le contrepoint, la côté organique dans une composition, les connexions profondes, les racines entre les matériaux. Et en plus, comment une réflexion profonde et fascinante selon comment écrire, comment on fait les esquisses, la relation entre la surface et l'arrière-plan dans la musique. Toutes sortes de conceptions intellectuelles extrêmement troublantes pour un enfant, un jeune de 17 ans, mais finalement fascinant et qui m'avait beaucoup, beaucoup donné. La façon dans laquelle j'écris de la musique maintenant aurait été impossible sans ce contact profond et provoquant avec Alexander Goehr.
Ce contact, il a donc, on l'entend, été fructueux, été nécessaire. Est-ce qu'il y a eu une partie où j'imagine, Georges Benjamin, que vous continuiez peut-être à montrer vos œuvres à Olivier Messiaen? Est-ce qu'à un moment, ça s'est senti et ça a transpiré?
Oui, hélas, pour que, oui, pour tout le monde, hélas. Car oui, je restais en contact avec Messiaen tout le temps, jusqu'à sa mort. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle œuvre, je l'avais envoyé, ou je suis venu à Paris pour lui montrer, ou il est venu à Londres, ou je suis allé une fois à Munich pour lui rencontrer. Et bien sûr, on restait en contact. Ça a dû être difficile pour Goehr, en savant que, à la fois, ce grand professeur et son ancien professeur étaient restés dans un certain sens le professeur de son élève. C'est compliqué. Mais ça marchait. Mais si il n'était pas possessif.
Ce que vous en avez retiré, c'est tout de suite vu dans le matériau de ce que vous écriviez, tout naturellement. Est-ce que peut-être vous aviez un rapport plus spontané, plus intuitif auparavant à la composition, et qu'avec Alexander Goehr, c'est devenu quelque chose de plus intellectuel
Oui, pas tout de suite. J'ai réfléchi longtemps sur lesquels... les choses dont il m'avait parlé. Et il faut quand même aussi se souvenir que mes grands amours de jeunesse musicale étaient Beethoven et Mahler. Ça veut dire la tradition de l'Allemagne, autrichien et Allemagne. Et que les conceptions de contrepoint, de continuité, d'organicisme sont très proches de cette façon de concevoir la musique et qui est loin de celle de Messiaen. Surtout, les conseils et les conceptions de Goehr étaient très utiles à moi, pendant les années après, où, dans un certain sens, je me suis perdu un peu. Je sentais le besoin de faire autre chose, mais je n'étais pas sûr qu'est-ce que c'était. Et en plus, je ne savais pas comment le faire. Et j'ai dû recommencer presque par zéro. J'ai dû refaire ma technique et mes conceptions. Et je crois le contact avec Goethe est très, très utile dans cet égard.
Fantasy and Lambic Rhythm, une étude de George Benjamin interprétée ici par Peter Hill. C'est ainsi que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec George Benjamin, réalisation Perrine Mingui, prise de son Thibaut Nassimben, mixage Cédric Chatelus, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure, podcast et réécoute des Grands Entretiens sur francemusique.fr. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.